Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nine Nar Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Publié en 1928, Propos sur le bonheur rassemble 93 textes brefs du philosophe français Alain, nom de plume de Émile-Auguste Chartier. Ses propos, initialement écrits dans le cadre de son activité journalistique et philosophique, ne composent pas un traité systématique. Il propose plutôt une série d'observations attentives sur les gestes, les humeurs, le travail, la peur, la politesse, le corps et les relations humaines. Le livre défend une idée exigeante de la joie, le bonheur ne dépend pas principalement des circonstances favorables ni de la satisfaction des désirs, mais d'une discipline active de l'attention et de la conduite. Nourri notamment par Descartes et Spinoza, Alain examine comment les passions amplifient le malheur et comment l'action peut modifier notre rapport aux émotions. Son but est de rendre la philosophie praticable dans la vie ordinaire. La forme fragmentaire autorise une lecture suivie ou discontinue, mais impose aussi au lecteur de relier lui-même les propositions souvent condensées de l'auteur. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, le bonheur comme exercice de la volonté plutôt que comme état reçu. Alain refuse de traiter le bonheur comme une récompense que le monde distribuerait aux personnes chanceuses. Pour lui, attendre des événements, des autres ou de la fortune, la garantie d'être heureux expose à une dépendance permanente. Le bonheur relève davantage d'une manière de répondre à ce qui arrive. Cette position ne nie ni les difficultés matérielles, ni la douleur physique. Mais elle distingue ces réalités des prolongements que leur donnent la crainte, la rumination et le découragement. Le lecteur est ainsi invité à observer le moment où un désagrément devient une vision générale et accablante de l'existence. La pensée d'Alain est volontariste au sens précis, où elle accorde une portée morale aux actes ordinaires, se remettre à une tâche, régler sa tenue, adopter une attitude civile. Cesser de nourrir une humeur hostile. Ces gestes ne sont pas des simulacres destinés à masquer la réalité. Ils constituent des moyens de reprendre prise sur elle. Cette conception s'oppose aux discours qui font du bonheur un sentiment spontané à découvrir au fond de soi. Chez Alain, il se construit dans une pratique répétée, imparfaite et concrète. Le titre même peut donc induire en erreur si on y cherche une méthode de bien-être prête à appliquer, il s'agit plutôt d'une éducation du jugement et de la conduite. Deuxièmement, le corps en mouvement comme recours contre les passions paralysantes. Une des intuitions les plus caractéristiques du recueil concerne le lien entre disposition corporelle et vie affective. Alain considère que beaucoup de souffrances psychologiques ne viennent pas directement du corps souffrant, mais des passions, c'est-à-dire des émotions et pensées qui s'installent, se répètent et prennent le commandement. Or, il est difficile de décider immédiatement de ne plus avoir peur, d'être moins triste ou de ne plus ressentir de colère. En revanche, il est possible de modifier une posture, de marcher, de travailler, de respirer plus librement ou de commencer une action déterminée. Cette marge de manœuvre corporelle devient le point de départ d'une transformation plus vaste. L'exemple du musicien inquiet avant de jouer illustre cette logique, l'appréhension peut perdre de sa force lorsque le geste technique commence et concentre l'esprit. Alain valorise également des réactions simples comme le bâillement ou l'étirement, non comme remède universel, mais comme signe que le corps peut interrompre une crispation. Cette analyse évite de confondre l'émotion avec une vérité définitive sur le monde. Une humeur a des effets réels, mais elle est aussi liée à des rythmes, des gestes et des habitudes modifiables. Le livre propose donc une philosophie de l'action incarnée, où la lucidité commence parfois par une mobilisation physique plutôt que par une longue introspection. Troisièmement, la lutte contre l'inquiétude et la fixation sur le passé ou l'avenir, les propos d'Alain accordent une place importante à l'inquiétude. En particulier lorsqu'elle transforme la santé, le destin ou les choix antérieurs en objets de surveillance incessante. Il ne recommande pas une insouciance aveugle. Son point est que la tension anxieuse peut grossir les signaux du corps et rendre l'individu indisponible à ce qu'il doit faire. L'inquiétude cherche souvent une certitude impossible de savoir à l'avance si tout ira bien, si une décision passée était juste ou si un danger se présentera. En poursuivant cette assurance, elle entretient précisément l'agitation qu'elle voudrait calmer. Alain oppose à ce mécanisme l'engagement dans le présent, surtout par une activité qui réclame des efforts réels. Une personne absorbée par une responsabilité ou un ouvrage difficile dispose de moins de place pour contempler sans fin son propre malaise. Cette priorité donnée au présent n'équivaut pas à effacer la mémoire ni à renoncer à prévoir. Elle vise la tendance à faire du passé une source de regrets immobile et de l'avenir un tribunal anticipé. Le livre invite ainsi à reprendre les faits à partir des actions encore possibles. Cette perspective peut sembler sévère, car elle valorise la maîtrise de soi. Elle reste néanmoins concrète, elle ne promet pas de supprimer les aléas, mais de limiter le pouvoir que leur interprétation anxieuse exerce sur la vie quotidienne. Quatrièmement, la politesse, le sourire et la bonté comme pratique de santé morale, Alain donne à la civilité une importance inhabituelle dans une réflexion sur le bonheur. Les comportements de douceur, de politesse et de bienveillance ne sont pas seulement des conventions sociales extérieures. Ils orientent aussi celui qui les accomplit. Une attitude hostile, un visage fermé ou des gestes brusques entretiennent un état de guerre avec soi-même et avec autrui. À l'inverse, la maîtrise des gestes et le souci d'autrui créent des conditions plus favorables à une humeur stable. Cette thèse ne signifie pas que l'on devrait feindre une joie permanente ou taire toute souffrance. Elle soutient plutôt que l'expression « choisi » exerce une influence réciproque sur l'émotion. Agir avec mesure laisse moins de place à l'emportement, comme l'engagement dans une tâche laisse moins de place à la peur. Alain formule aussi une dimension éthique forte : être heureux est, en partie, un devoir envers les autres. L'idée n'est pas de culpabiliser les personnes malheureuses, mais de rappeler que le désespoir cultivé peut se communiquer autant que la confiance. Le bonheur possède ainsi une dimension relationnelle et non strictement privée. Cette réflexion distingue le recueil de certaines approches individualistes du développement personnel. La joie y est liée à une responsabilité dans le monde commun, rendre les échanges plus respirables, refuser de faire de sa mauvaise humeur une loi, et reconnaître que la bonté peut être une discipline active. En dernier lieu, une forme fragmentaire qui fait de la philosophie un usage quotidien, propose sur le bonheur, tire une grande part de son originalité de sa forme. Alain ne déroule pas une démonstration unique depuis des principes jusqu'à des conclusions. Il rassemble des textes courts, issus d'occasions diverses, qui reviennent sur des expériences communes sous des angles parfois différents. Cette discontinuité correspond à son ambition pédagogique. La philosophie doit pouvoir se rencontrer dans les situations ordinaires et non rester réservée à un langage spécialisé. Chaque propos agit comme une mise à l'épreuve d'une idée dans un détail de la vie, une inquiétude, une fatigue, une décision, une relation ou une activité. La lecture peut donc être sélective et répétée. Toutefois, cette accessibilité ne doit pas être confondue avec une simplification complète. Les formulations sont souvent lapidaires et normatives. Elles demandent aux lecteurs de discuter leurs limites et de les replacer dans la tradition rationaliste dont elles procèdent. Les références implicites ou explicites à Descartes. Spinoza et parfois Platon indiquent que ces observations quotidiennes reposent sur une conception structurée de la liberté, des passions et du jugement. La forme brève a aussi une conséquence critique : aucune phrase isolée ne résume à elle seule le livre. Le sens se construit par les variations, les tensions et les retours entre les textes. Cette composition encourage moins l'adhésion immédiate à des maximes qu'une attention renouvelée aux mécanismes de nos habitudes. En conclusion, Propos sur le bonheur conviendra au lecteur qui cherche une philosophie morale proche de l'expérience quotidienne, ainsi qu'à ceux qui souhaitent aborder Alain sans passer par ses ouvrages plus théoriques. Il peut intéresser les lecteurs de Spinoza ou de Descartes par sa réflexion sur les passions, mais ne demande pas de connaissances préalables de ses auteurs. Sa lecture offre surtout des instruments d'observation, distinguer une douleur d'une inquiétude qui la prolonge, voir comment le corps et les gestes influencent une humeur, mesurer la part sociale de la joie et reconnaître le rôle des habitudes dans le découragement. Ses bénéfices sont pratiques sans réduire le livre à un manuel de recettes. Alain ne promet ni sérénité continue ni contrôle absolu des événements. Il propose une exigence de reprise sur soi, parfois austère, qui peut également susciter une discussion sur les limites du volontarisme face aux souffrances profondes et aux contraintes sociales. Par rapport au livre contemporain consacré au bien-être, l'ouvrage se distingue par son écriture fragmentaire, son enracinement philosophique et son refus de faire du bonheur une possession individuelle ou un objectif de consommation. Ces textes brefs n'offrent pas une méthode linéaire, mais un ensemble de provocations intellectuelles à vérifier dans l'action. Cette alliance entre rigueur moraliste, attention au corps et souci de la vie commune explique la persistance de son intérêt. Si vous souhaitez soutenir Alain, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.